est un pays moteur dans la lutte contre le racisme. Merci de me donner la parole. Je vais briser la glace. Merci à la rapporteure spéciale et merci au professeur Villehun qui est actuellement au Canada, si je me souviens bien. Merci pour sa contribution. La semaine dernière, comme beaucoup de collègues, j'ai participé aux réunions du comité consultatif lors desquelles ils ont présenté le rapport qu'ils viennent de finaliser sur le racisme systémique au sens large, qui incluait les questions liées au racisme systémique dans le contexte migratoire pour les réfugiés, etc. Nous avons décidé que nous demanderions une étude supplémentaire concernant spécifiquement l'influence du racisme systémique dans le cadre des mouvements transfrontières, c'est-à-dire au moment de demander un visa, le traitement des réfugiés, etc. À titre d'exemple, en tant que représentant de l'Afrique du Sud, cela a été très intéressant. Pendant l'apartheid, malgré les sanctions, les Sud-Africains pouvaient se déplacer dans le monde entier sans visa, sauf pour les pays qui interdisaient les visites de la part de Sud-Africains. Pourtant, une fois que l'Afrique du Sud est devenue la nouvelle Afrique du Sud, tous les pays ont imposé un visa. Mais je ne sais pas ce qui a changé, c'est la question que je me pose. Nous étions un pays géré par la minorité, nous sommes devenus un pays piloté par la majorité, et pourtant, tous les pays ont imposé un visa à l'Afrique du Sud. Cela indique clairement, bien sûr, beaucoup d'autres excuses pourront être invoquées, mais cela montre que cela a été un effet immédiat. Et si vous regardez les régimes de visa pour les voyages à l'international, il y a beaucoup de pays qui imposent des conditions difficiles pour obtenir un visa ou qui imposent de payer pour avoir un permis de travail. Ces pays ont un point commun qui ont des difficultés pour sortir de leurs propres frontières vers le nord. En général, les pays qui imposent les plus grandes difficultés pour obtenir des visas pour accéder à ce pays subissent eux-mêmes des grandes difficultés pour aller dans d'autres pays. Les réfugiés qui traversent la Méditerranée ne sont pas traités sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Il y a même un manquement aux droits de la mer. Par exemple, si un bateau coule, un message de SOS doit être envoyé et le navire le plus proche doit sauver les naufragés. Et pourtant, maintenant, on peut être passible d'une peine lourde pour avoir sauvé des naufragés en mer. Aucun bateau n'ose sauver des naufragés. On a encore entendu parler de 48 noyés parce que personne n'a répondu au SOS, même si des règles sont imposées par les États. Lorsqu'on sauve, on risque d'être condamné à des peines terribles. Cela n'est plus normal, c'est nouveau. Et pourtant, le droit de la mer est un des plus anciens droits. Il y aura d'autres noyades, il y aura d'autres naufragés, parce qu'ils quitteront des zones de guerre, parce que des pays bombardent leurs villes. Ce sont des questions systémiques que nous devons aborder rapidement au sein du comité consultatif notamment et entre États membres. J'espère que le comité consultatif pourra étudier la question du racisme systémique et des flux migratoires, pas forcément spécifiquement des réfugiés, puisque je pense que l'OIM y travaille également. Les États, à qui on impose un régime de visa strict, devraient se demander pourquoi on leur impose un tel régime. C'est peut-être parce que les migrants